C'est très dur de travailler, de faire de la prévention quand on n'est pas dans un pays stable. J'avais eu l'occasion de travailler en Somalie avec Médecins Sans Frontières. On est à 97%. Presque toutes les femmes ont été excisées et infibulées et on voit pas beaucoup de progrès, alors que justement l'Éthiopie est un des pays en Afrique de l'Est, encore de l'Afrique, où ça bouge. Il y a l'exemple de docteur Bogalet qui avait réussi de diminuer vraiment la pratique de l'infibulation dans sa région. Voilà, tout dépend en fait des contextes, mais c'est vrai que des pays en guerre, c'est vraiment pas l'idéal pour faire un travail de prévention.
Et au niveau des motivations, de la raison pour laquelle on procède à ces mutilations, est-ce que d'un pays à l'autre ça varie ou est-ce qu'il y a quand même des récurrentes ?
Il y a des récurrences, qui est que dans beaucoup de pays, c'est quand même pour faire une mainmise sur la liberté de la femme et le droit au plaisir. C'est une violence de genre, les mutilations génitales féminines. Et donc, c'est dans un continuum de violence où la première fois, on l'excise et puis ensuite, on la marie de force, parfois à 13 ou 14 ans, avec un homme qu'elle n'a pas choisi. Elle peut être la deuxième et la troisième épouse. Enfin, voilà, c'est tout un continuum. Et des fois, les femmes disent « Ma maman m'a dit qu'en tant que femme, j'allais souffrir 3 fois dans ma vie, le jour de mon excision, le jour de mon mariage et le jour de mon accouchement. » Donc c'est comme si on abaissait déjà la tête des filles en disant « maintenant tu seras soumise ». Donc ça, on le retrouve un peu partout, l'idée que si on ne coupe pas le clitoris, la femme aura des mœurs légères, qu'elle ne pensera qu'au sexe, qu'elle sera comme une prostituée. Ça, on le retrouve dans beaucoup. Après, il y a le côté de la religion. Donc là aussi, c'est très discuté, parce que autant on ne retrouve rien dans les textes, que ce soit dans la Bible, dans le Coran, voilà, il n'y a pas de prescription pour exciser. Et malgré ça, il y a des gens qui continuent à le faire au nom de la religion. Donc c'est très important que les leaders religieux s'expriment. Et donc ce qui s'est passé en Éthiopie, c'est très bien. Maintenant, il faudrait qu'au niveau de l'islam, la même chose soit faite. Donc je sais que certains hautes autorités islamiques ont dit il y a rien dans le Coran, mais d'autres continuent à faire passer cette idée-là dans la tête des gens.
Quelles conséquences ça a pour la femme, en dehors évidemment du fait qu'on la prive de plaisir? Est-ce que ça peut avoir des conséquences sanitaires graves?
Oui, tout à fait. Donc, une des premiers problèmes en tant que sage-femme que j'ai pu voir, bien, c'est les problèmes à l'accouchement, en particulier quand c'est le type d'infibulation. Donc, il y a différents types d'excisions. L'infibulation, c'est le type le plus sévère où le clitoris a été coupé. Les petites lèvres ont été coupées et les grandes lèvres ont été cousues ensemble. Et là, au niveau de l'accouchement, on a des travails bloqués, c'est-à-dire que la tête du bébé n'arrive pas du tout à sortir. Et s'il n'y a pas une assistance qualifiée à l'accouchement, eh bien le bébé meurt et puis la maman après. Ou alors, on a des gros problèmes gynécologiques ensuite, c'est-à-dire les femmes souffrent de fistules. Il y a un petit passage qui s'est fait entre la vessie et le rectum parce que le bébé est resté des heures et des heures coincé dans le vagin. Et ça, c'est vraiment catastrophique. Donc au niveau santé publique, ça a bien été prouvé. Il y a eu toute une étude faite dans la revue Le Lancet qui a été publiée en 2006 dans plusieurs pays africains où on montrait le risque d'hémorragie, de déchirure et de mortalité aussi chez les nouveau-nés parce que les accouchements étaient bloqués. Donc ce message-là sur la santé, on essaie vraiment de le faire passer au niveau des femmes quand on fait des activités. Et puis après, dans la vie de tous les jours, certaines femmes n'ont pas mal seulement pendant les rapports sexuels, mais elles ont mal tout le temps parce qu'il y a un urinome, il y a un petit kyste qui s'est fait au niveau de la section d'un nerf. Ou alors, c'est des infections récurrentes, des infections urinaires, des infections génitales. C'est très rare que la femme puisse oublier qu'elle a été excisée. Il y a toujours quelque chose qui lui rappelle à un certain moment au niveau de sa santé.
On sait que les moyens sont parfois limités en Afrique, que la plupart des médecins se trouvent dans les grandes villes. Est-ce qu'il y a quand même une attention de certains pouvoirs publics envers ce type de problématique?
Oui, donc c'est vrai qu'il y a une grande disparité entre l'Europe et l'Afrique. Autant en Europe, on voit maintenant des centres spécialisés pour les femmes excisées, avec une approche multidisciplinaire, psychologue, sexologue, voire reconstruction du clitoris, comme en France ou en Belgique. Alors qu'en Afrique, il y a encore un grand pas à faire. Mais il y a quand même certains pays qui sont à la pointe. Donc je citerai le Burkina Faso, où depuis 2006, il y a des centres qui pratiquent la reconstruction du clitoris. Mais même sans chirurgie, on peut déjà être mieux avec une prise en charge psychologique et sexologique. Et ça, c'est encore le point faible, parce que dans beaucoup de pays d'Afrique, quand on va voir un psychologue, on pense tout de suite, voilà, c'est pour les fous, c'est pas pour nous, alors qu'on sait qu'il y a des approches, en fait, de thérapie brève qui peuvent être très, très utiles. Et justement, on va lancer le GAMS avec l'appui de l'UNICEF et l'UNFPA, avec le Joint Program, on va lancer une communauté de pratiques en mars, en avril 2017. On va faire un échange de pratiques pour la prise en charge psychosexuelle des femmes excisées entre l'Afrique et l'Europe. Donc le but, c'est justement d'apprendre les uns des autres et de faire que certaines techniques qu'on applique déjà en Europe dans les centres multidisciplinaires dédiés aux femmes excisées puissent être appliquées en Afrique. Parce qu'on pense qu'avec peu de moyens, il y a des choses qui peuvent être faites au niveau d'un soutien psychologique. Ce qu'on observe, c'est que des petites filles qui sont excisées en Afrique, elles vont aller à l'hôpital, on va leur faire un traitement antibiotique, où on va arrêter l'hémorragie, mais il n'y a rien qui est fait au niveau de la santé mentale. Des collègues me disaient que récemment, lors d'une excision de 12 petites filles, dans la cour de l'école, elles étaient toutes là, laissées de côté, elles n'avaient plus envie de jouer. Enfin, après ce qui s'était passé, elles avaient subi un gros trauma. Et pourtant, elles étaient allées à l'hôpital, on avait soigné leurs plaies, mais rien n'avait été fait au niveau psychologique. Donc on espère qu'avec ce projet d'échange de pratiques, il y a des choses qui pourront se faire, même sans trop de moyens en Afrique aussi.
Pour en revenir aux évêques éthiopiens que j'évoquais en début de cette interview, ils s'exprimaient devant des directeurs d'école en insistant justement sur l'importance de la prévention par l'éducation et par des cours d'éducation sexuelle. Est-ce que pour vous, c'est finalement la solution, l'information, l'éducation dans les écoles, en tout cas au niveau du continent africain ?
Tout à fait. Enfin, c'est une des choses, parce que tout dépend de l'âge. Avoir des cours d'éducation sexuelle et apprendre l'anatomie féminine, masculine et le fait que c'est une atteinte des droits, c'est un premier pas. Et on voit que ça a porté ses fruits, comme au Kenya, où on est excisé un peu plus tard, vers 12, 13 ou 14 ans, il y a eu des cas où des petites, en fait, des jeunes filles ont pu fuir avant l'excision parce que justement, elles en avaient entendu parler à l'école. Le problème, c'est quand on excise des bébés, parce que maintenant, il y a une tendance justement à réduire l'âge de l'excision. On excise des nourrissons. Là, un nourrisson ne peut pas fuir, n'a pas eu le temps d'être informé. Donc, il faut à la fois toucher les jeunes pour qu'ils puissent se défendre, ou du moins quand ils seront parents, ils seront sensibilisés. Mais il faut continuer encore à toucher aussi les parents. C'est pour ça qu'en tant que sage-femme, nous, on a aussi tout un projet de sensibilisation pendant les consultations prénatales. Je pense que c'est un bon moment aussi pour sensibiliser la mère, parce qu'une mère veut le meilleur pour son enfant. Et une sage-femme qui peut essayer de faire le lien entre les problèmes qu'une mère aurait eu lors d'un premier accouchement difficile avec hémorragie suite à l'excision, si elle arrive à sensibiliser la mère en disant peut-être que le problème, l'accouchement très long et difficile, c'était dû à l'excision, et qu'est-ce que vous voulez pour votre fille? Est-ce qu'on peut mettre ensemble quelque chose en place pour que votre fille soit épargnée? Donc le problème est tellement complexe et tellement ancré qu'il faut agir à plusieurs niveaux. Donc il y a l'éducation, pour la génération future, mais je pense que les futurs parents, lors des consultations prénatales, c'est aussi un très bon moment.
On a tendance à penser à tort que c'est un problème africain. Vous travaillez en Belgique, mais on parle aussi d'énormément de cas en Asie et au Moyen-Orient.
Oui, alors ce sont les nouveaux chiffres que l'UNICEF a sortis en 2016. Ça a été une surprise pour certains et d'autres, pour certains militants qui travaillaient en Asie, juste une confirmation de ce qu'ils avaient vu. Donc on est passé d'une prévalence mondiale de 135 millions à 200 millions parce qu'on a découvert maintenant les chiffres en Indonésie. Plus de 50% des petites filles avaient été excisées en Indonésie, avec le problème que c'est médicalisé. Donc c'est un peu le même problème aussi en Égypte, où ce sont des médecins qui médicalisent. Donc malgré que l'Organisation mondiale de la santé a fermement condamné la médicalisation, ça reste encore un problème. Et puis l'Europe, je travaille en Belgique avec le GAMS. La Belgique est une terre d'accueil comme la France ou l'Angleterre ou l'Allemagne. Et donc, avec les guerres qui sévissent en Afrique, on reçoit pas mal de demandeuses d'asile. Mais on sait bien que c'est pas en traversant la frontière qu'on arrête toutes les traditions. Et donc, les petites filles nées en Belgique ou en France sont à risque d'excision en été. Donc, ce qui se passe La pratique pour les parents, c'est d'envoyer les petites filles ou les jeunes filles en Afrique, dans leur pays d'origine, en juillet et en août. Et l'excision se pratique là-bas avec l'idée que personne ne le saura au retour. Maintenant, il faut savoir qu'il y a des lois en France, en Angleterre, en Belgique, qui punissent les faits d'excision, même si ça a été fait dans le pays d'origine. C'est-à-dire qu'il suffit que les parents résident en Europe pour que si on l'apprend ou si ça se voit lors d'une consultation ensuite, médecine scolaire ou voilà, suivi de l'enfant pour ses vaccins ou autres, eh bien, les parents peuvent être punis.